Et bienvenue aux Imaginales pour une rencontre un peu particulière. Alors, sous la protection des hommes de l'empereur, donc vous voyez, on est tout à fait en sécurité avec Victor Dixen. Merci donc à nos amis napoléoniens vosgiens pour cette haie d'honneur et cette sympathique entrée des artistes que sont évidemment Marie-Charlotte Delmas qui viendra nous éclairer sur le conte et les rapports entre le roman de Victor Dixen et le conte dont il s'inspire. Et puis par ailleurs, et surtout, bonjour Victor Dixen et merci d'être aux Imaginales, pas pour la première fois, puisque vous y êtes déjà venu plusieurs fois. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore que Victor Dixen a publié une tétralogie, c'est comme ça qu'on dit, Jack Spark, donc 4 volumes, une vraie histoire de fantasy, avec là aussi, c'est décidément une passion du conte. Peut-être avant d'entamer notre conversation, Victor, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le conte vous passionne autant ?
Ben, je pense que j'ai été beaucoup marqué par les contes moi-même étant enfant. Et ce sont des histoires qui sont restées quelque part dans un creux de ma tête et qui ressurgissent lorsque je me mets à écrire de manière assez naturelle finalement.
Alors voilà, les choses sont dites et on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Un café littéraire un petit peu particulier puisqu'on annonce un roman que vous ne pourrez pas acheter à la sortie, qui sortira fin août, la date exacte.
Fin août, oui. Alors voilà. Je vois là sur les épreuves, 22 août.
C'est précis, c'est ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Donc c'est quand même assez flatteur de sortir un roman qu'on met dans les livres susceptibles d'intéresser critique et jury pour la rentrée littéraire chez Gallimard Jeunesse. Donc Animal avec un E. Sous-titré La malédiction de Boucle d'or. Ça y est, un clignotant s'allume dans les têtes, Boucle d'or, mais ce ne serait pas un conte par hasard? En deux mots, Marie-Charlotte Delmas, juste nous situer en deux mots Boucle d'or.
Alors, est-ce que mon micro marche? Oui, et mon micro marche. Allez, on va dire que c'est un conte, mais je pense que c'est une histoire et que c'est même au départ une petite comptine, puisque le verbe conter, C-O-N-T-E-R, vient du verbe compter, C-O-M-P-T-E-R, et on a commencé par énumérer des choses. Et comme c'est une histoire anglo-saxonne, je pense qu'on est, et ça fait partie bien sûr du conte, puisque la randonnée appartient au conte, je pense qu'au départ on est dans une petite comptine de nursery.
Avec les fameuses énumérations.
Avec les fameuses énumérations.
Les trois bols, les trois chaises, les trois lits.
Alors, Victor, vous vous apprêtez à publier un roman fantastique post-napoléonien qui se déroule ici dans les Vosges et sur le territoire des Imaginales. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter Animal ?
Oui, alors Animal, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Blonde. Blonde, c'est une jeune femme de 17 ans qui a passé toute sa vie dans un couvent où elle a été déposée à sa naissance. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Et elle a passé les 17 premières années de sa vie dans ce couvent, cachant son visage derrière des lunettes épaisses. Donc peut-être, vous voyez, un petit parallèle avec l'auteur. Et également, elle est très frileuse, donc elle est enfouie sous des châles, des couvertures. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, mais les Ursulines, les sœurs, la destinent à prendre le voile lorsqu'elle aura 18 ans pour passer le reste de ses jours donc dans ce couvent. Mais sa vie va être bouleversée lorsqu'elle va rencontrer un jeune tailleur de pierre qui a été envoyé au couvent pour réparer le vieil escalier. Hein, c'est un couvent croulant, perdu dans la forêt vosgienne. Et le soir même, un vieil homme va faire éruption dans sa cellule et lui remettre un dossier, un mystérieux dossier qui contient peut-être les clés de son passé. Et dès lors, plus rien ne sera jamais comme avant.
Alors Victor Dixen, j'ai vu que vous avez des petites notes. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage pour commencer à nous faire entrer dans le roman ?
Alors comme on a encore nos amis napoléoniens, j'aimerais bien commencer par le prologue. Le prologue qui est vraiment napoléonien et qui rentre en résonance avec le temps qu'on a ces jours-ci. Hein. On est presque en pleine campagne de Russie, donc je pense que ça nous met dans l'ambiance. Donc ce sont les toutes premières pages d'Animal. Il neigeait. Des tombereaux de flocons gros comme des poings s'abattaient sur les rives de la Bérézina. D'un côté, la Russie immense, qui venait de broyer l'armée la plus puissante du monde. De l'autre, l'Occident, d'où était venu cet empereur tout auréolé des victoires d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland. Celui qui s'était présenté en maître devant les portes de Moscou n'avait récolté que les cendres de la ville incendiée par ses propres habitants, et les premiers flocons d'un hiver qui devait être le plus long de tous. Lorsque Napoléon avait décidé la retraite, il était trop tard. Le ciel gonflé de nuages avait déjà la couleur du linceul qui s'apprêtait à ensevelir ce qui restait de la grande armée, des dizaines de milliers d'hommes de toutes les nations d'Europe, rassemblés pour assouvir le rêve d'un seul d'entre eux. Il neigeait. Trois jours plus tôt, des pontonniers s'étaient immergés dans les eaux glacées de la Bérézina pour jeter deux passerelles au-dessus de la rivière qui barrait le chemin de la retraite, de la France, du salut. La plupart avaient péri en construisant ces ouvrages héroïques. La mort de quelques-uns en échange de l'espoir pour des milliers d'autres. Depuis trois jours et trois nuits, on avait vu glisser sur les ponts des légions de spectres, guerriers transformés en vieillards par le froid qui ralentit tout, qui fige les membres et qui scelle les yeux. En cette aube blafarde qui peinait à poindre derrière les rideaux de neige, la plupart des rescapés de la débâcle étaient passés à l'ouest, sur la rive de la vie. Mais il en restait encore beaucoup trop sur l'autre rive, trop d'estropiés, de fourbus, de boiteux, qui n'avaient pas trouvé la force de s'arracher à la faible flamme des bivouacs pour s'élancer une dernière fois dans les bras de l'hiver. Il neigeait. Mille sabots martelaient la terre depuis l'est fatal, faisant trembler la poudreuse autour des campements à demi abandonnés. C'était la rumeur des cavaliers cosaques qui arrivaient sabre au clair, prêts à éventrer, égorger, taillader ceux qui avaient osé fouler le sol russe, respirer l'air russe. Le fait que l'on n'y vit pas à 10 mètres rendait l'approche de la faucheuse plus terrible encore. Elle pouvait surgir de n'importe où, à n'importe quel instant, pour récolter sa moisson. Les malheureux qui allaient disparaître se cherchaient à tâtons dans le blizzard afin de sentir un peu de chaleur humaine, une dernière fois, de murmurer ou d'entendre une prière, et dire que l'on prétendait que le paradis était blanc. Il neigeait. Le front des Cosaques épousa la masse des sacrifiés dans un frôlement étonnamment doux, étouffé par le coton du ciel et de la terre. Les sabres entrèrent sans un bruit dans leurs fourreaux de chair. Et puis soudain, le grondement retentit. Un grondement terrible, qui semblait monter du plus profond de cette vallée saoulée de trop de sang, engraissée de trop de cadavres. Un monstrueux borborygme, comme si les marécages gelés régurgitaient la mort même dont on les avait gavés de force. Les chevaux alentour se cabrèrent et désarçonnèrent leurs cavaliers. La terreur s'empara de ceux qui l'avaient semé. On vit un sabre fendre la brume, avec la main qui était encore cramponnée, mais sans le bras, ni rien du corps auquel elle avait été arrachée. Puis ce fut une tête qui roula dans la neige, traçant un sillon pourpre, aussitôt recouvert par les flocons. Là-bas, au-dessus de la Bérézina, une grande lumière flamboya. L'empereur avait donné l'ordre d'incendier les ponts pour protéger la retraite, abandonnant les grognards et les cosaques aux choses qui grondaient dans la brume. Il neigeait toujours.
Bon, il neige pas, mais on est quand même dans l'ambiance. Hein. C'est une attaque quand même assez forte qui va déjà nous donner envie de savoir la suite. Justement, on a commencé par nous allécher sur une rencontre, on adore les rencontres, on est romantique ici, entre Blonde, le personnage de Blonde, et puis le tailleur de pierre, puis la lettre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, Victor Dixen?
Oui, alors ce tailleur de pierre, Caspar, est en fait un apprenti compagnon hein, qui fait son tour de France et qui est dépêché dans ce couvent avec son maître pour réparer le vieil escalier croulant, le couvent de Sainte-Ursule et un très vieux couvent qui a été mis à mal par la Révolution. Les révolutionnaires ont d'ailleurs taillé toutes les statues, coupant les nez des saints et des saintes. Et ces deux ouvriers vont réparer finalement tous les dégâts. C'est la première fois que Blonde est confrontée à un garçon de son âge, à un jeune homme de son âge. C'est, on peut le dire, un coup de foudre immédiat. En même temps, elle est assez terrifiée car les sœurs ne l'ont pas du tout préparée dans son éducation à ce type de rencontre. Et le soir même, comme je le disais en introduction, elle a un autre homme qui s'introduit dans sa cellule, cette fois-ci un vieillard très inquiétant, qui va lui remettre ce dossier. Et ce dossier s'avère être un dossier d'enquête. Un dossier d'enquête qui date de 1814, donc 17 ans avant, à l'époque où Blonde est née. Et ce dossier d'enquête a trait à la disparition d'une mystérieuse mademoiselle de Brance, une jeune aristocrate qui était exilée avec ses parents en Prusse au moment de la Révolution, qui a vécu toute sa vie en Prusse et qui, à la chute de Napoléon, va rentrer en France et va s'égarer dans la forêt vosgienne. Et on ne la verra plus jamais après cet égarement dans la forêt vosgienne. Et le dossier d'enquête parle de sa disparition. Au fil des jours, tout en continuant d'assister aux leçons des sœurs dans le couvent, Blonde va lire une après une les pages du dossier, découvrir une après une les pièces à conviction et se rendre compte des liens qui allient cette mystérieuse mademoiselle de Brance avec son propre destin et son propre passé.
Est-ce qu'on peut avoir vraiment quelques lignes, parce que le temps passe à une vitesse folle quand on vous écoute, Victor Dixen, juste justement sur ce petit texte dont vous nous parliez?
Alors effectivement, je vais vous lire un extrait de la première pièce à conviction qui est contenue dans le dossier et qui est en fait un témoignage laissé par Gabrielle de Brance depuis la chaumière où elle est retenue prisonnière. Et c'est là qu'on retrouve, peut-être un motif du conte. Donc peut-être, peut-être qu'on peut lire quelques lignes du conte avant de...
D'interroger Marie-Charlotte.
Voilà.
Boucle d'Or était une toute petite fille aux cheveux bouclés et dorés qui habitait avec sa maman une maisonnette près du bois. « Boucle d'Or, lui avait dit la maman, ne t'en va jamais seule au bois. On ne sait pas ce qui peut arriver dans le bois, surtout à une toute petite fille. » Un jour, comme elle se promenait au bord du bois, au bord seulement, Boucle d'Or vit briller sous les arbres une jacinthe bleue. Elle fit trois pas dans le bois et la cueillit. Un peu plus loin, elle vit une jacinthe blanche, plus belle encore que la bleue. Elle fit trois pas et la cueillit. Et un peu plus loin, elle vit tout un tapis de jacinthe bleue et de jacinthe blanche. Elle y courut et se mit à faire un gros bouquet. Mais quand elle voulut sortir du bois, tous les chemins étaient pareils. Elle en prit un au hasard et elle se perdit. Elle marcha longtemps, longtemps, longtemps. À la fin, bien fatiguée, bien triste, elle alla se mettre à pleurer quand soudain, elle aperçut à travers les arbres une très jolie maison. Toute contente, Boucle d'Or reprit courage et alla vers la maison. La fenêtre était grande ouverte.
Victor Dixen, petit passage.
Alors la même version, effectivement, vue dans le roman Animal. Donc c'est Gabrielle de Brance qui écrit. Plus je progressais, plus les frondaisons au-dessus de ma tête s'épaississaient. Des sapins se mêlaient aux chênes. Le soleil perçait difficilement leur manteau d'épines. Ils ne parvenaient pas vraiment à réchauffer l'air humide. Un épais tapis de mousse étouffait le bruit de mes pas. Il en émanait une odeur mouillée qui me rappelait celle de la mer Baltique, au bord de laquelle j'avais parfois été en villégiature avec mes parents, du temps où j'étais enfant en Prusse. Les troncs couverts de moisissures, les rochers mouchetés de lichens, tout autour de moi était vert, bleu, et suintant comme dans une grotte marine. Ces indications vous aideront-elles à me retrouver, lecteur ? Ce ne sont que les souvenirs flous d'une créature effarée, terrassée par la fatigue et par la faim. Dans les profondeurs où je m'enfonçais, il n'avait ni myrtille, ni framboise, ni aucune baie que je connusse. Soudain, elle m'apparut, la chaumière, posée au fond d'une combe où chuintait un fin ruisseau. Aucun rayon de soleil ne filtrait jusqu'à ce creux sombre. Au contraire, j'avais l'impression d'avoir découvert la source d'où émanaient les ténèbres baignant cette partie de la forêt. La chaumière elle-même se détachait faiblement dans la pénombre, tel un galet sous la surface de la mer. En réalité, c'était plus une maisonnette qu'une véritable maison. Une masure au mur blanchi à la chaux. Le toit de paille, plus imprégné d'humidité qu'une éponge, avait viré au vert de gris. Des fougères et des herbes folles y poussaient de manière anarchique. Je tombais à deux reprises en descendant le talus escarpé. La terre, grasse et glissante, se dérobait sous mes escarpins, giclait sur ma robe, si bien que je parvins au fond de la combe couverte de boue. Vue de près, la chaumière semblait encore plus délabrée que je ne l'avais imaginée. De larges fissures striaient les murs, au creux desquels la végétation sauvage avait aussi repris ses droits. Les fenêtres étaient étroites, comme des meurtrières. Leurs carreaux étaient fêlés, et derrière les rideaux de dentelles grossières paraissaient aussi gris et détrempés que des serpillières. Je me persuadais que la chaumière était abandonnée. Depuis des années, sans doute, depuis un siècle peut-être. Elle avait dû accueillir autrefois un bûcheron solitaire ou un ermite misanthrope avant d'être englouti dans le gouffre de l'oubli.
Marie-Charlotte Delmas, vous êtes spécialiste reconnue du conte, vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petites choses sur Boucle d'Or ?
Alors, toujours difficile de...
C'est mieux avec le micro.
C'est mieux, hein, voilà, elle est gentille. Toujours difficile dans un conte de savoir. Il est publié par Sousset la première fois en 1837. Donc on a ce conte littéraire. On pense qu'il s'agit d'un conte populaire, mais c'est très difficile de savoir. Ça a été le cas également pour Perrault, et très difficile de savoir quel était le conte initial, de quoi il s'est inspiré. Simplement, il ne s'agit pas d'une petite fille, mais d'une sorcière. Donc, il y a deux indices. Premier indice, c'est l'énumération. Donc, on a vraiment le sentiment d'une comptine de nurserie. Deuxième indice, c'est une sorcière. Elle part par la fenêtre. On n'a pas une structure de conte. Dans un conte, il y a une consolation. On part dans une quête. Cette quête, elle est dramatique. Elle peut faire peur. C'est très difficile. Mais à la fin, ils vécurent heureux. Il y a beaucoup d'enfants. L'orphelin retrouve... Donc, il y a vraiment cette volonté de gagner qui n'est pas une morale en tant que telle, mais qui est vraiment une consolation. Là, ce n'est pas le cas, et pour cause, c'est une sorcière. La sorcière s'en va. Or, en 1830, dans le peuple, on croit encore que les sorcières, les fées, ces descendantes des striges, passent par les fenêtres et par les cheminées, puisque ce sera là l'origine de la cheminée du Père Noël. Donc, ce que je peux dire sur ce conte-là, il arrive en France. La plus ancienne version que j'ai trouvée est celle de Madame de Witt-Guizot, qui est la fille du ministre de l'Instruction Guizot, du temps de la présidence de Casimir Perier. Et elle fait une version pour enfants et elle l'appelle « La petite fille aux cheveux d'argent ». Voilà, et on est en 1861 quand paraît cette version, et elle met en note du conte, voici la traduction d'un conte anglais qui est déjà très très célèbre en Angleterre, autant qu'en France, le conte de Cendrillon et de je ne sais plus quoi. Voilà.
Victor, pourquoi vous avez eu l'idée de réécrire en quelque sorte ? Est-ce que d'ailleurs c'est une vraie réécriture, ce conte Boucle d'Or ? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a rencontré, vous racontez dans votre enfance ?
Alors oui, on a dû me le raconter comme tant d'autres contes. En fait, tout est venu d'un rêve. Vraiment, j'ai rêvé de cette chaumière. Je me suis réveillé et tout de suite, je me suis dit, c'est Boucle d'Or qui revient. Et j'ai relu le conte de Boucle d'Or. Et je me suis rendu compte, finalement, comme le dit Marie-Charlotte, qu'il était assez atypique et que la fin était très ouverte. La plupart des contes se terminent bien, ils ont beaucoup d'enfants, il y a une vraie fin et qui est positive, qui est une consolation. Mais là, en fait, Boucle d'Or, dans la version où c'est une petite fille, alors aux cheveux d'argent ou aux cheveux d'or, elle s'enfuit par la fenêtre, elle est effrayée par les ours, mais on ne sait pas ce qu'elle devient. Le conte s'arrête là comme en suspens. Donc pour moi, il est devenu indispensable de continuer l'histoire. Donc plus qu'une réécriture, c'est une suite, une continuation. J'ai vraiment voulu savoir ce qu'était devenu Boucle d'Or et ce qu'étaient devenus les habitants de la chaumière.
Et ça, on va le savoir, évidemment, le 23
août.
On va
le savoir, tout à fait.
Marie-Charlotte, est-ce qu'un bon conte doit toujours faire peur ?
Non, alors les bons contes ne font pas forcément peur. Je ne dirais pas que c'est la peur, c'est une petite angoisse dont on sait qu'en principe, ça va bien se terminer. En tout cas, les contes populaires se terminent toujours, tous bien, et ne sont pas destinés à faire peur, mais à faire grandir. Donc, lorsqu'ils font peur, ce sont des contes de croque-mitaine. Et le croque-mitaine, c'est un être surnaturel dans un lieu qui est un être surnaturel qui est connu du lieu. Ça peut être une fée, un lutin, peu importe, auquel on ne croit plus, mais dont on connaît toujours la légende. Donc, on va pouvoir en faire peur aux enfants. Voilà. Donc, il y a des contes de croque-mitaine pour faire peur aux enfants, mais globalement, le conte, il est là pour les faire grandir et les aider à avancer malgré tous les obstacles qui vont être posés devant eux. Voilà.
Est-ce que quand même, avec un rien de perversité, Victor Dixen, qu'on trouve déjà dans vos premiers romans, est-ce que vous n'avez pas transformé un conte plus ou moins innocent en un conte d'horreur et d'amour à la fois ?
Moi, j'ai vraiment l'impression, une fois encore, que le conte de Boucle d'Or pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et c'est en ça qu'il est unique dans le paysage des contes. Finalement, la transgression, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, hein ? Boucle d'Or s'introduit dans la maison, alors qu'elle n'y est pas invitée. Elle mange la nourriture à laquelle elle n'a pas droit. Alors, elle s'enfuit à la fin du conte, mais est-ce que elle a finalement assouvi un légitime instinct d'exploration ou est-ce qu'elle a commis une faute ? On ne le sait pas vraiment et il n'y a pas de morale dans ce conte. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, le thème qui m'a intéressé de creuser, c'est la frontière entre l'humain et l'animal. Ces ours dans le conte qui sont humanoïdes, c'est quelque chose de très intéressant. Et ce que j'ai essayé de creuser finalement, c'est la manière dont la figure de la belle, parce que blonde dans mon livre, c'est un peu la belle, peut se fondre dans celle de la bête. Comment les deux peuvent ne faire qu'une peut-être. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très stimulant.
C'est Jean de l'ours.
C'est un peu Jean de l'ours, un autre conte, effectivement, oui. Tout à fait. Oui.
La fuite de Boucle d'Or face aux trois ours qu'on a tous lu ou entendu, est-ce que vous pouvez nous en lire un petit extrait, Marie-Charlotte ?
C'est le C'est pas cet extrait-là qu'il m'a demandé de lire.
Ah
il m'a demandé
ah
de
bon,
lire l'extrait de la maison.
D'accord. Ben on y va. Si vous avez changé d'avis, pas de problème.
Je m'adapte. Oui, je fais ce qu'on me demande. Hein, voilà. Je mets les lunettes. C'est juste ça. C'est la suite, en fait. Boucle d'or regarda par la fenêtre et voici ce qu'elle vit. L'une à côté de l'autre, bien rangée, elle vit trois tables. Une grande table, une moyenne table et une toute petite table. Et trois chaises. Devant la grande table, une grande chaise. Devant la moyenne table, une moyenne chaise. Devant la petite table, une toute petite chaise. Et sur chaque table, un bol de soupe. Un grand bol sur la grande table. Un moyen bol sur la moyenne table. Un petit bol sur la toute petite table. Boucle d'or trouva la maison très jolie et très confortable, sentit la soupe qui sentait bon et y entra.
Donc on a vraiment l'énumération, hein, le conte qui compte avec le motif des trois qui revient et qu'on retrouve aussi dans Animal, du coup. Donc un extrait miroir de ce passage. Donc Gabriel de Brance est rentré dans la mystérieuse chaumière perdue dans la forêt. L'intérieur de la bâtisse était plongé dans l'obscurité. Aussi, la première chose que je perçus fut l'odeur. C'était une odeur douceâtre qui réveillait en moi d'imprécis souvenirs. D'un seul coup, la sensation de la faim m'assaillit, me mordit les tripes comme un renard enragé. D'une main fébrile, j'écartai les rideaux crasseux pour laisser un peu de lumière pénétrer dans cet antre. Une table m'apparut sur le sol de terre battue, entourée de trois chaises, faites de rondins. Je frémis. Le couvert était mis. Trois bols de terre cuite, flanqués chacun d'une cuillère en bois. Quand avait-on mangé dans ces bols pour la dernière fois? Depuis combien de temps la grosse chandelle écrasée au cœur de la table était-elle éteinte? J'avais la désagréable impression que cet endroit avait été habité dans un passé moins lointain que ce que je m'étais imaginé de prime abord. Y a-t-il quelqu'un? Ma propre voix me déchira les oreilles. Elle me parut aussi aiguë et chevrotante que la voix de cette vieille mendiante qui venait mendier l'aumône tous les matins devant notre maison en Prusse. Tiraillé par la faim, je m'approchai de la table. La fatigue pesait sur mes épaules de tout son poids de plomb. Je me hissai en chancelant sur la chaise la plus haute, mais son bois mal dégrossi m'égratigna les chairs à travers l'étoffe trop fine de ma robe. Je reposai pied à terre et je m'apprêtais à me laisser tomber sur la deuxième chaise. Je me retins au dernier moment. Des chaînes aux maillons rouillés pendaient lugubrement le long de son dossier. Je me rabattis sur la troisième chaise. Sa surface était douce sous mes doigts. Avec soulagement, je me rendis compte qu'elle était polie. On verra dans le roman pour les trois bols.
Question que je voulais aussi vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi de situer votre histoire dans le sillage de l'épopée napoléonienne? On sait que c'est en France extrêmement marquant. La meilleure preuve en est quand même nos napoléoniens. C'est qu'aujourd'hui, il y a toujours des passionnés, alors plus ou moins critiques, de l'épopée napoléonienne. Mais de toute façon, c'est une histoire fondatrice en France. Qu'on soit favorable à Napoléon ou pas du tout, c'est nécessairement une période. C'est à la fois la Révolution française. Mais pourquoi ça vous a fasciné? Pourquoi vous avez situé dans... Vous auriez pu faire ça pendant l'épopée napoléonienne. Non, vous le citiez juste après.
Alors,
qu'est-ce qui vous a intéressé?
Pour deux raisons, en fait. La première, mais tout à fait pragmatique, c'est que le conte de Boucle d'Or, le conte littéraire, le premier auquel je me réfère, donc celui de Souzet anglais, date de 1837, donc c'est vraiment cette époque. Et la deuxième raison, qui est tout aussi importante, c'est que pour moi, la fin de l'épopée napoléonienne, c'est finalement l'époque la plus romantique, l'époque romantique par excellence. C'est-à-dire que pendant la Révolution et pendant le Premier Empire, on a essayé de vivre ses rêves, de vivre les idéaux dans le monde. Et on s'est rendu compte que c'était pas possible, en tout cas l'échec de l'épopée napoléonienne le marque. Et désormais, il va falloir vivre ses rêves dans l'écriture, dans les romans. C'est l'époque romantique par excellence. Et ça m'a énormément stimulé. C'est aussi quelque part une révolution conservatrice, hein, la révolution de juillet qui remet Louis-Philippe sur le trône. C'est les valeurs bourgeoises qui triomphent à nouveau. Donc la femme qui est à nouveau... enserré dans un carcan social très rigide. Et c'est le cadre finalement parfait pour moi pour dessiner, pour faire émerger une femme puissante, hein, pour reprendre un terme qui est vraiment à la mode pour ces imaginales, une héroïne qui va vouloir braver tous les interdits de son époque, remettre en cause toutes les lois qui contraignent les femmes et aimer avec la rage d'une bête sauvage, une animale.
Ça, c'est beau et ça nous donne envie de lire. Avant de vous intéresser au conte, au fantastique, à la fantaisie, à l'imaginaire, cette période romantique post-napoléonienne, Stendhal peut-être, la Chartreuse de Parme, ces choses-là aussi.
Oui, Stendhal, alors notamment, effectivement, mais l'auteur qui revient dans Animal, c'est Chateaubriand particulièrement. Hein, je pense notamment au René. René, hein, qui est un livre de jeunesse de Chateaubriand, mais qui a été un énorme succès populaire à l'époque de sa publication. C'est-à-dire que toutes les jeunes femmes et les jeunes gens de l'époque dévoraient René. C'était le Twilight de l'époque, avec ses grands emportements romantiques. Donc c'est l'image de Chateaubriand sur face à la tempête, les cheveux dans le vent. Levez-vous, orage désiré, qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie. Et effectivement, dans la bibliothèque des Ursulines, sur la plus haute étagère, Blonde va trouver René et va se plonger dedans avec délectation. Alors il y a tous les ouvrages de bienséance et les traités de mœurs, le traité d'éducation des jeunes filles de Fénelon en 10 exemplaires sur les étages les plus accessibles, mais elle va quand même réussir à atteindre le René qui va enflammer son imagination.
Je dis ça pour les jeunes qui sont dans la salle, regardez toujours dans la bibliothèque de vos parents les étages supérieurs. Les parents vont en retirer quelques-uns. Oui, toujours sur ce choix, on a dit donc une période post-napoléonienne, je crois que la réponse est très claire sur le romantisme, mais pourquoi aussi les Vosges et Épinal, à part évidemment pour se faire inviter aux Imaginales?
Alors voilà, première raison. Non, mais il y a un lien très fort pour moi entre cette région et les Imaginales, pour la bonne raison que j'ai découvert les Vosges, j'ai découvert Épinal à travers le festival, j'ai été immédiatement séduit par cette région un peu frontière entre le monde français et le monde germanique, qui pour moi est peuplée de légendes, une région de forêts profondes, très inspirante à mon sens, et puis qui reste et qui restera toujours pour moi liée aux Imaginales, donc liée à l'imaginaire, et j'ai vraiment voulu situer ce roman dans cette environnement pour cette raison-là. Et puis il y a la ville d'Épinal en particulier, avec les images d'Épinal qui sont liées au conte de manière très forte pour moi, et qui sont liées aussi à l'époque napoléonienne. On n'a jamais tiré autant d'images d'Épinal que pendant l'époque napoléonienne et après, pour illustrer les grandes scènes de l'épopée du Premier Empire. Et j'ai voulu finalement cultiver cette esthétique avec Animal. J'ai essayé d'écrire ce roman comme on peindrait une image d'Épinal, à la fois douce et violente, à la fois réaliste et fabuleuse, avec des couleurs primaires, comme ça, quelque chose de viscéral et de très fort, hein, ce que j'ai essayé de faire.
C'est amusant de parler des images d'Épinal, c'est évident, c'est y compris dans le titre du festival. Mais hier, on faisait le vernissage d'une image d'Épinal, justement, et qui était tout simplement une image originale créée par les deux artistes qui ont fait l'affiche du festival. Vous voyez comme quoi la boucle Victor Dixen est bouclée quelque part. Nos inspirations, vos inspirations se recoupent, et ça, je trouve ça tout à fait fabuleux. Vous avez quand même prévu de nous faire un petit cadeau, on va pouvoir avoir quelque chose sur le site des Imaginales pour donner envie de lire bien sûr le roman et aussi pour récompenser les lecteurs, ceux qui sont là d'abord, et puis aussi ceux qui n'ont pas pu venir mais qui trouveront sur le site la référence à votre univers. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite novella que vous allez nous proposer?
Alors oui, c'est vrai que on parle aujourd'hui d'Animal. Je suis très content de pouvoir échanger pour la première fois lors des Imaginales autour de ce roman, mais qui ne paraîtra que fin août, donc c'est encore 3 mois à attendre. Et pour rendre l'attente plus supportable, une novella, donc un court roman introductif à Animal, va être mis en ligne dans les prochaines semaines, donc au mois de juin. Et ça sera avec grand plaisir que ce sera mis sur la page des Imaginales. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous lire encore, allez, pour nous faire plaisir, un petit extrait d'Animal sans révéler trop de choses? C'est possible, Victor Dixen? Un truc que vous n'avez pas préparé, peut-être, ou que vous avez... Ah, ça, c'est dur, hein.
Alors, je vais retourner un peu en arrière et je vais tout simplement raconter la première rencontre de Blonde et de Gaspard. Donc, en fait, Blonde vient de quitter la salle de cours où elle a assisté au cours des sœurs avec les autres demoiselles qui sont donc éduquées à Sainte-Ursule avec elle, mais qui vont toutes partir se marier dans le monde une fois qu'elles auront atteint l'âge de 18 ans, alors que Blonde, elle, est censée rester toute sa vie dans le couvent. Tandis que les demoiselles quittaient la classe pour se rendre à la chapelle, Blonde referma lentement son écritoire, constatant qu'une fois encore, elle n'avait rien noté sur la page de son cahier. C'était comme si la leçon lui était passée au-dessus de la tête. Elle soupira en s'engageant dans le déambulatoire qui faisait le tour du cloître. Peut-être Bérénice avait-elle raison, après tout. Peut-être avait-elle toute raison, celle qui souriait d'un air entendu dès qu'elle ouvrait la bouche. En regardant les cadettes disparaître devant elle au détour du déambulatoire sombre, Blonde eut l'impression déchirante de les voir déjà s'envoler vers une nouvelle vie. Elle se mit à courir pour les rattraper, Il lui semblait que ses souliers plats dérapaient sur le pavé envahi par la mousse et le lichen, comme si le vieux couvent avide de chair fraîche essayait de la retenir dans son ventre et de l'y digérer. Mais elle ne voulait pas de ce destin. Elle ne voulait pas demeurer à jamais la recluse de Sainte-Ursule. Elle ne voulait... Oh ! Emportée par son élan, handicapée par sa mauvaise vue, Blonde venait de heurter de plein fouet une sœur qui avait jailli de derrière une colonne du cloître. « Pardon ! Oh, pardon » s'exclama-t-elle en se penchant pour ramasser ses plumes éparpillées sur le sol, dans une mare noire. En tombant, son encrier s'était brisé. « Je vous en prie, ne dites pas à mon maître que je suis venu ici. » Blonde se figea à un genou au sol. Cette voix n'appartenait à aucune des Ursulines. En réalité, ce n'était même pas une voix de femme. La jeune fille releva la tête vers la personne qui s'était accroupie devant elle pour l'aider à ramasser les plumes. Elle reconnut le jeune tailleur de pierre qui venait chaque jour à Sainte-Ursule depuis une semaine. Jusqu'à présent, elle ne l'avait vu que de loin, occupée à la réflexion du grand escalier du couvent pour laquelle les sœurs les avaient mandatés, son maître et lui. L'itinéraire des pensionnaires entre la classe, la chapelle, le dortoir et le réfectoire avait été soigneusement étudié par les religieuses pour éviter que leurs protégés ne croisent les deux intrus durant la durée des travaux. Aussi, la présence du jeune homme dans le déambulatoire était-elle tout à fait anormale. « J'ai entendu sonner les vêpres, expliqua-t-il le souffle court. Je pensais que les demoiselles et les sœurs seraient toutes à la chapelle. Je venais juste pour regarder la statue dans le cloître. » Blonde jeta un coup d'œil furtif à la grande statue de Sainte-Ursule qui se dressait sur un piédestal au milieu du cloître bleui où le soir tombait déjà. Elle avait énormément souffert lors de la Révolution 40 ans plus tôt. Les sans-culottes lui avaient brisé les mains et râpé tout le visage. Sans doute l'aurait-il renversée si elle n'avait été si lourde. Blonde reporta son attention sur le tailleur de pierre. Le seul homme qu'elle avait vu d'aussi près en 17 années d'existence était le vieux prêtre qui lui donnait la communion le matin à la messe. Mais le visage affûté de l'ouvrier n'avait pas grand-chose à voir avec la grosse face rougeaude du bon père Mathieu. Avec ses boucles châtains, ses grands yeux bruns et son tablier chargé de ciseaux rutilants comme des armes, ce garçon ressemblait davantage au Saint-Michel en armure perché dans la plus haute niche de la chapelle. Sauf que Blonde ne s'était jamais sentie dévorée par les yeux de l'archange.
Voilà, on a deviné que ce jeune homme, parce que c'est vraiment pour les statues qu'il était venu au couvent.
Ça, l'histoire nous le dira.
Alors, on va pas en dire plus. Victor Dixen, pourquoi, et ça c'est une question peut-être plus d'ordre plus général, animal, Jacques Spark, votre tétralogie, d'autres projets j'imagine qui sont déjà en réflexion, sinon en cours d'écriture. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme sérieux, bien sûr tout rapport d'un certain âge, sans un âge certain, se met à écrire des romans pour adolescents et non pas du roman sérieux pour adultes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné par... On sait bien que les adultes les lisent en cachette, ça c'est un autre débat.
Voilà, les frontières je pense ont été troublées au moins depuis Harry Potter et qu'on a vu entre toutes les mains. Et je pense que les romans pour adolescents ou pour jeunes adultes, comme on dit, sont aussi sérieux que la littérature blanche ou les romans vraiment estampillés pour adultes. Simplement, il me semble que les sentiments, les questionnements de l'adolescence sont parmi les plus forts, les plus violents. Et d'un point de vue romanesque, moi ça me stimule énormément. C'est un territoire de conflit, c'est un territoire aussi de construction de soi, et c'est pour ça que j'écris sur cet âge avec des héros de cet âge.
Avant qu'on passe à l'avant-dernière, on va appeler nos napoléoniens, mais avant qu'on passe à l'avant-dernière étape de notre rencontre autour d'Animal, je vous renvoie donc au site des Imaginales. On mettra prochainement en ligne la nouvelle de Victor Dixen. On l'annoncera sur le Facebook, puisqu'on a déjà plus maintenant de 3000 inscrits. C'est quand même déjà pas mal. Ah, c'est sympa. Et puis on l'annoncera sur ActuSF et tous les autres sites partenaires. Donc ça devrait nous drainer pas mal de lecteurs en ligne. Et je pense que moi je vais la découvrir parce que je la connais pas encore aussi. Et cette novella devrait nous inciter ensuite à nous plonger dans Animal, donc, et à patienter jusque fin août. On a décidé de vous faire un cadeau. Alors, pas tous, parce que c'est pas possible, mais on a décidé, c'est pour ça que vous voyez que j'ai préparé des petits bulletins, j'aurais dû les faire à l'avance. On va vous demander à la fin de remplir tout simplement ce petit bout de papier avec en majuscule bien lisible votre nom, votre prénom et votre adresse postale, plus votre email si vous en avez un, ou votre mobile si vous en avez un. Et puis ensuite, on va les mélanger et on va en tirer trois au sort, une main innocente dans la salle qu'on va trouver ou à la tribune. ferai la main innocente s'il le fait.
Florian.
Voilà, Marie-Charlotte s'est proposée, je m'en doutais. Quelqu'un qui s'intéresse aux contes ne peut qu'être une main innocente, chacun le sait. Voilà, surtout quand on a lu les contes de Perrault. Mais je pense qu'on va donc procéder à ce petit moment convivial et amical qui nous est proposé par Victor Dixen et les éditions Gallimard. Donc trois d'entre vous, au hasard, vont avoir la chance dans les secondes qui vont suivre de gagner à parution chez votre libraire spinalien un exemplaire du roman Animal. Puis si c'est pas Épinal, un autre libraire.
Voilà, et ça sera, je crois même que ça sera envoyé directement par les éditions, donc d'où l'adresse. Voilà.
Merci Victor Dixen. On va demander à quelqu'un d'aller prévenir nos napoléoniens que dans quelques minutes, on va reconduire Victor bien encadré par les grenadiers. Et avant de voir nos amis la garde de l'empereur, on va vous proposer tout simplement, on va vous distribuer les petits papiers, puis on va vous demander de mettre vos dons, votre adresse. On va tirer au sort tout de suite, et on ne vous fera pas languir, on vous l'annoncera dès lundi sur le site. Merci Victor Dixen en
tout cas. Merci Marie-Charlotte, merci Stéphanie.